Bonjour. Vous avez le droit de dire bonjour. Bonjour, bonjour. Alors je reconnais quelques-uns, mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs où, avec un tiers du visage, j'ai un peu de peine à vous remettre. Excusez-moi, mais... Et puis bonjour aussi à la caméra et à tous ceux qui sont derrière. Aujourd'hui, en préparant ce message, j'ai vraiment eu la conviction qu'il y avait quelqu'un dans cette salle ou derrière son écran. Il y avait quelqu'un parmi nous à qui Dieu veut dire ce matin, reviens, change ta vie, reviens à moi. Je vous invite à lire dans la parole de Dieu, dans l'évangile selon Luc, au chapitre 13. Je lirai dans la traduction « Parole de vie ». Luc 13, verset 1. « À ce moment-là, des gens viennent raconter ceci à Jésus. Pilate a fait tuer des Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. » Jésus leur répond, « Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ces Galiléens sont morts de cette façon parce qu'ils ont commis plus de péchés que tous les autres Galiléens? Non, mais je vous préviens, changez votre vie, sinon vous allez tous mourir comme eux. » Et ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées en tombant, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, mais je vous préviens, changez votre vie, sinon vous allez tous mourir comme ces gens-là. Ensuite, Jésus leur dit une histoire. Un homme a un figuier planté dans son champ, dans sa vigne. Il vient chercher des figues, mais il n'en trouve pas. Alors il dit à son ouvrier, « Regarde !» Depuis 3 ans, je viens chercher des figues. Sur ce figuier, j'en trouve pas. Coupe-le. Ce n'est pas la peine qu'il occupe la terre inutilement. L'ouvrier lui répond, « Maître, laisse-le encore cette année. Je vais creuser la terre autour. Je vais mettre de l'engrais. De cette façon, l'année prochaine, il donnera peut-être des figues. Sinon, tu le feras couper. » Je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous te remercions parce que tu n'es pas un Dieu silencieux. Tu n'es pas un Dieu qui s'est masqué pour rester dans son ciel, mais tu es venu vers nous jusqu'à devenir humain, jusqu'à devenir mortel, jusqu'à mourir pour nous. Merci parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ, tu es vivant et par ton esprit, tu nous parles aussi au travers de ces mots. Que ton esprit ait toute liberté ce matin pour nous interpeller chacun, que nous te connaissions depuis longtemps ou que nous ne te connaissions pas encore. Ce matin, tu veux nous dire, reviens. Amen. Je ne vais rien vous dire de nouveau, mais depuis le début de cette année 2020, les crises semblent se succéder. Le coronavirus, son cortège de malades, de morts, les restrictions sanitaires que nous vivons, qui bouleversent nos quotidiens, et puis aussi des violences de guerre lointaines ou plus proches de nous, que nous avons encore pu vivre cette semaine. Tant de bruit, de fureur autour de nous qu'il nous arrive parfois de ne plus entendre Dieu, de plus arriver à saisir ce qui est en train de se passer, ce que Dieu est en train de faire. Le monde de Jésus n'était pas si différent du nôtre. Une catastrophe frappe la ville de Jérusalem. Une tour s'écroule. 18 morts. Comme le coronavirus aujourd'hui, une catastrophe qui peut toucher n'importe qui, un passant. Pourquoi? Autre actualité. Du temps de Jésus, des hommes de Galilée, la région d'origine de Jésus, peut-être ils les connaissaient, on ne sait pas. Ils sont venus à Jérusalem pour offrir un sacrifice à Dieu. Et le gouverneur Pilate, un homme cruel, les a fait mettre à mort alors qu'ils offraient leur sacrifice. Des morts violentes, horribles, dans un contexte religieux et politique, dans un lieu saint, sans doute, peut-être même dans le temple de Dieu. C'est terriblement proche de notre actualité. Et face aux catastrophes, nous, les humains, nous cherchons un sens. Ce n'est pas nouveau. Dans l'Antiquité, on pensait que lorsqu'il y avait une catastrophe, c'est qu'il y avait du mal. En particulier, une épidémie, pour les gens de l'Antiquité, était souvent assimilée à une punition de la part de Dieu. Quelqu'un avait fait du mal, alors la colère de Dieu se déversait sur les humains. Et c'est le sens des questions que Jésus formule à propos de ces deux catastrophes. Est-ce que les victimes, ceux qui sont touchés, et pour l'épidémie, on est tous touchés, est-ce que ces victimes étaient plus coupables que les autres pour que cela leur tombe dessus? Jésus va répondre à cette question, mais sans doute de manière un peu inattendue. Jésus répète presque mot pour mot deux fois la même réponse à la catastrophe qui touche n'importe qui, cette tour qui tombe, et à ces morts violentes, politiques, religieuses. Deux fois, deux situations différentes, mais deux réponses quasiment identiques. Il dit, sont-elles plus coupables que les autres? Non. D'abord, il dit non. Puis un avertissement, je vous préviens, changez votre vie, sinon vous allez tous mourir comme ces gens-là. C'est une réponse vraiment étrange. Pourquoi est-ce que Jésus n'exprime pas sa compassion pour les victimes? Pourquoi est-ce qu'il ne se fait pas une pancarte « Je suis galiléen » prenant position contre l'injustice d'un envahisseur dans le lieu saint? Non, ce n'est pas acceptable, il y a des limites. On ne peut pas aller jusque-là. Ou alors, pourquoi ne condamne-t-il pas la violence de Pilate? Il dit c'est un acte inacceptable. On ne peut pas le tolérer. Ou peut-être, il pourrait dire, prions pour les proches des victimes. Ou il pourrait dire même, prions pour Pilate, pour qu'il se convertisse. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. On sait que Jésus était plein de compassion. On sait qu'il a combattu pour la justice. Mais il répond tout différemment. Par sa réponse, Jésus n'apporte pas le réconfort qu'on attend de lui. Par sa réponse, il n'apporte pas non plus de la compassion aux victimes ou le réconfort de la vengeance contre le bourreau. Oui, justice sera accomplie un jour. D'abord, il dit non. Non, ces personnes n'étaient pas plus coupables. Mais alors, une autre question vient ensuite. Pourquoi elles? Pourquoi ces innocents, si elles n'ont rien fait pour mériter ça, pourquoi cette violence? Pourquoi cette catastrophe qui touche des innocents? Pourquoi cette injustice? La question suivante, où est Dieu là-dedans? Cette question est tout à fait légitime. Nous sommes choqués lorsque la violence, la mort, le mal fait irruption dans nos vies. Il y a un sentiment d'arbitraire lorsque des innocents sont frappés au hasard ou ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait être nous. Mais attention, dans sa réponse, Jésus ne dit pas que ces personnes étaient innocentes. Il dit qu'elles n'étaient pas plus coupables que les autres. Lorsque Jésus dit non, ce n'est pas pour déclarer que ces victimes étaient innocentes. Il ne dit pas « elles n'ont rien fait ». Il dit « vous êtes tous aussi coupables que ces victimes ». Elles n'étaient pas plus coupables que les autres, sous-entendu, tous les autres sont aussi coupables que ces victimes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Merci Jésus, mais là on est un peu perdu. En fait, Jésus refuse qu'on étiquette les victimes en disant « ça c'est des coupables, ils l'ont mérité, que ça leur tombe dessus. Et moi, qui me comporte bien, je suis en sécurité. » Je ne risque rien. On étiquette, on catalogue, on juge, on cherche des coupables, que ce soit les victimes ou les bourreaux, surtout pour se mettre à distance de ce mal qui arrive, de cette colère qui tombe, pour dire, finalement, moi, ça va. Et Jésus ne se contente pas de ce non, de cette courte réponse, il ajoute un avertissement assez violent qu'il va expliquer ensuite par une parabole. D'abord l'avertissement, je vous préviens, changez votre vie, sinon vous allez tous mourir comme eux. Je vous préviens, changez votre vie, sinon vous allez tous mourir comme eux. Plutôt que d'éloigner cette situation avec des analyses, des réconforts, des conseils, Jésus affirme que tous ses auditeurs sont coupables et que, en tant que coupables, s'ils ne changent pas de vie, s'ils restent coupables, ils vont vivre la même chose. On peut penser qu'il a en tête ici qu'ils vont subir la colère de Dieu. Jésus ne cherche pas le réconfort dans une mise à distance de ces drames, ça ne m'arrivera pas. Je suis plus juste, je suis plus prudent, je suis plus béni, je suis plus protégé par Dieu, etc. Mais Jésus se sert de ces drames comme des électrochocs pour revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que c'est que l'essentiel ? Changer de vie, revenir 100% à Dieu. Et Jésus raconte ensuite cette histoire d'arbre planté dans une vigne qui ne porte pas de fruits depuis 3 ans. Moi, j'ai eu des poiriers. Je parle au passé, parce qu'au début, ils produisaient des poires, et puis après, les poires se sont rétrécies jusqu'à plus grand-chose. Et puis, ils prenaient de la place dans mon jardin, alors j'ai fait de la place. Je crois que c'est tout à fait normal. Le propriétaire veut donc faire couper ces arbres fruitiers qui ne donnent plus de fruits depuis 3 ans. Ça semble être trop tard pour que quelque chose se passe, 3 ans. Mais son jardinier veut donner une dernière chance à l'arbre. Il propose de donner encore une année. Et puis il va mettre de l'engrais. Et puis vraiment, si ça ne donne rien, on va couper. En quoi est-ce que cette histoire éclaire ce que Jésus vient de dire ? En fait, nous les humains, on est comme des arbres fruitiers. Nous sommes faits pour quelque chose. Les arbres sont faits pour produire des fruits, puis les humains, en fait les humains sont faits pour quoi ? Bon, on n'a pas le droit de parler, enfin si, vous avez le droit de parler, on ne va pas vous entendre en streaming, mais pourquoi en fait ? Produire des fruits, super, tu fais quoi ? Pommes, raisins ? C'est quoi tes fruits ? Ah, voilà la question, on ne répond pas par une métaphore, hein, non ? Pourquoi en effet ?
Des relations.
Une relation ?
De l'amour.
Est-ce qu'il y en a d'autres où vous lui avez délégué les réponses ? Pour dominer la création ? Pour l'esprit, pour les fruits de l'esprit. Pour adorer Dieu. C'est beau, on voit qu'il y a plein de bonnes choses. Et effectivement, je pense que vous avez tous raison. En ouvrant les premières pages de la Bible, on voit que l'être humain est créé pour quelque chose. Tu parlais de remplir la terre, de la dominer. C'est la raison pour laquelle Dieu crée les humains. C'est impressionnant de voir que c'est une des rares créatures qui a vraiment une fonction. Il y en a quelques-unes, le soleil pour éclairer, des choses comme ça. Mais l'humain, il a aussi ce but-là, cette fonction-là. On découvre que les humains ont été faits pour vivre avec Dieu, pour parler avec lui, se balader dans le jardin le soir, pour travailler avec lui, pour l'aimer, être aimé, pour dépendre de lui, le servir, pour remplir la terre de la présence bénissante de Dieu. Ok, début du programme. Voilà pourquoi en effet. Alors si nous étions des arbres, nos fruits, ça pourrait justement être tout ce que Dieu place en nous pour nourrir ceux qui nous entourent. J'ai imaginé cet arbre, si je viens prendre une pomme à un arbre, je le blesse pas, je ne lui retire pas quelque chose de... Je prends quelque chose de lui, qui est vraiment à lui, qu'il a vraiment produit, mais en même temps, ce fruit, il est là pour être mangé. Eh bien, en moi, il y a des choses que les autres peuvent venir prendre sans me dépouiller, parce que Dieu les a fait pousser. Il y a des fruits que les gens peuvent venir, dont il peut venir se nourrir pour pouvoir être rassasié, avoir la vie. Cette vie qui n'est pas celle que je produis moi-même, mais que Dieu produit en moi. Tout ce que Dieu place en moi, en nous, pour nourrir ceux qui nous entourent. Et pour produire ce fruit, on a besoin d'être accroché à Dieu, connecté à lui, assez proche de lui pour recevoir ce que ceux qui nous entourent vont venir chercher en nous. Parce que ces fruits, c'est des fruits divins, c'est des fruits qui viennent de Dieu. Ce n'est pas nos petits fruits. Alors peut-être un peu, mais en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas produire beaucoup par nous-mêmes. On s'assèche assez vite. On est un peu comme cet arbre. Parce que cet arbre qui ne donne pas de fruits depuis 3 ans, c'est toi, c'est moi, lorsque je ne suis pas connecté à Dieu. Plus possible de diffuser Dieu autour de moi, de donner des fruits, de nourrir. Un fruit super spécial, il y a comme... Moi, on peut reconnaître que c'est de cette essence de pommier que vient cette pomme. Il y a de moi, mais il y a surtout de Dieu là-dedans. Cet arbre, c'est d'abord aussi les auditeurs de Jésus qui ne sont pas connectés à Dieu non plus. Et quand un arbre ne porte plus de fruits, qu'est-ce qu'on fait ? On le coupe et il meurt. C'est aussi ce qui devrait arriver aux humains qui ne sont pas connectés à Dieu. Ils devraient mourir. Et tout de suite, en fait. Pour les auditeurs de Jésus, c'est aussi cette situation qui est là. Mais bizarrement, ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas ce qui se passe. Les humains déconnectés de Dieu ne meurent pas tout de suite. Pourquoi ? Pourquoi ce sursis ? Pourquoi est-ce qu'on arrive à vivre sans Dieu ? Parce qu'on est peut-être décoratif. Il y a un bel arbre, il ne produit pas de fruits, mais il est joli. Parce qu'on le mérite, parce que nous le valons bien. Non. Ce n'est pas à cause de notre passé qu'il y aurait comme un sursis, mais c'est à cause de l'avenir, ce qui pourrait arriver. Le sursis n'est pas là pour que nous puissions continuer à vivre sans fruits, mais pour nous donner une dernière chance de porter du fruit. Nous aussi, nous sommes en sursis pour nous donner une dernière chance de revenir à Dieu, de changer notre vie, de nous connecter à Dieu pour vivre. Et si nous ne le faisons pas, si les auditeurs de Jésus ne se tournent pas vers Dieu, eh bien, à un moment, ce sera trop tard. 1 an pour cet arbre, 40 ans pour le peuple d'Israël, et puis le pays sera détruit en l'an 70. Pendant ce sursis, le peuple d'Israël, dans son ensemble, ne s'est pas tourné vers son Dieu. Quelques-uns l'ont fait. Et tous les premiers chrétiens étaient tous des juifs israélites qui se sont tournés vers Dieu. Et nous, aujourd'hui, peut-être nous sommes chrétiens depuis des décennies. Où en est notre fruit ? Où en est notre proximité avec Dieu dans cet ouragan? Que cherchons-nous? Cherchons-nous des responsables, des coupables pour ces crises? Ou cherchons-nous Dieu? Pendant ce sursis qui est devant nous, ce temps de grâce avant le jugement final, avant que la colère de Dieu contre le mal et tous ceux qui le portent, c'est-à-dire les humains, avant ce jugement final, est-ce que nous allons porter du fruit ? Retrouver le sens de notre vie ? Face aux catastrophes, face à la violence, Jésus ne nous dit pas « tout ira bien ». Jésus nous dit, Jésus te dit aujourd'hui « reviens, change de vie, reviens à Dieu, porte ce fruit de Dieu pour les autres ». Ce fruit qui nous pousse, qui ne pousse que quand on est tout proche de Dieu. Et à ceux qui se sont déjà tournés vers Dieu, Dieu nous rappelle, plutôt que de chercher des coupables, cherche-moi, cherche Dieu. En commençant ce message, je vous disais que j'avais cette conviction qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un parmi nous à qui Dieu veut dire « Reviens, change de vie, reviens à moi. » Alors c'est maintenant, c'est le moment. Reviens. Je vous invite à la prière. Tu es le Père de tout bien, le Père des lumières, le Père de la vie. Tu es un Dieu qui aime tellement toute ta création et ces humains que tu as placés au milieu. Tu es ce Dieu qui souffre de voir le mal prospérer. Et pourtant, tu attends. Tu ne règles pas tout de suite parce que tu nous l'as dit, si tu réglais tout de suite, eh bien nous serions balayés. Tu attends, Seigneur, que nous nous tournions vers toi. Mais nous savons aussi, tu nous le dis, un jour, tu viendras régler son compte au mal. Alors, nous voulons revenir à toi, nous accrocher à toi. Regarder vers toi pour recevoir de toi le fruit que tu veux que nous portions. Nous allons maintenant prendre quelques instants de silence accompagnés par la musique pour revenir en nous-mêmes, nous placer devant Dieu et nous tourner complètement vers lui, revenir complètement à lui.